Nusantara, ça sonne loin. L'Indonésie prépare un déménagement. En gros, ils sont en train de construire une nouvelle ville. Et Jakarta sera plus la capitale.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque et notre monde à l'aune de ces nouveaux mots qui jaillissent dans l'actu mais qu'on ne comprend pas toujours. Aujourd'hui, on va zoomer sur un mot qui est aussi un nom propre puisque c'est celui de la future capitale indonésienne, Nusantara. Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? La capitale de l'Indonésie, c'est Jakarta, je le sais, même que j'avais eu le calembert géographie à la soirée Strip Trivial Poursuite chez Courade, éructé Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef nostalgique de la Cochinchine, en découvrant le thème de l'émission du jour. Il faut dire que ça fait beaucoup d'informations à la fois pour Cyril, à qui on a d'abord dû apprendre que l'Indonésie n'était plus néerlandaise. Bon sang, mais elle est quoi alors? Eh bien, elle est indonésienne, Cyril. Hein, le processus de décolonisation est passé par là. Décolonisation, Cyril, je t'expliquerai. Bref, on partait de très loin. Manon, elle, connaît mieux l'Indonésie. Elle garde notamment un délicieux souvenir du Spa des 5 mondes, du Four Seasons de Bali, où elle embrasse d'ailleurs le petit personnel qui était vraiment aux petits soins avec elle, attentif à la moindre de ses demandes.
Je ne suis attirée que par des métis.
Oui, Madame Mariani, on va vous apporter ça tout de suite. Voilà. Alors, que se passe-t-il en Indonésie? Pourquoi le pays va-t-il changer de capitale, troquant Jakarta donc pour Nusantara? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Est-ce que le pays ne serait pas mieux dirigé si les Néerlandais étaient toujours là? Question de Cyril. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Franck Tétard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Franck, vous êtes docteur en géopolitique, enseignant au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années pour l'excellente émission d'Arte, Le Dessous des Cartes. Et vous sortez ces jours-ci Atlas historique des capitales déplacées, un livre passionnant qui est publié aux éditions Autrement. Des cartes, mais aussi des textes qui nous racontent l'histoire des capitales déplacées à travers l'histoire. Ça peut paraître étonnant, mais le changement de capitale est assez courant partout dans le monde. La dernière en date, c'est celle qui nous a donné envie de faire cette émission. Nusantara, nouvelle capitale de l'Indonésie à la place de Jakarta. Alors, pourquoi on change de capitale? La France elle-même a déjà dû changer de capitale. Pour quelles raisons? Vous allez tout nous expliquer pendant une heure. Juste le temps de vous présenter deux sommités hein, en matière de géographie. À vos côtés, Franck, elle a jadis qualifié une ville de 150 000 habitants, en l'occurrence Angers, de village. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, ce Four Seasons de Bali, vous conseillez
ou... Non, mais j'ai pas du tout envie d'aller à Bali, il y a que des influenceurs, c'est pas bien.
C'est vrai, c'est pas bien.
Eh oui.
Ça devient...
Bah, me regardez pas comme ça.
Vous diriez pas non.
C'est devenu un peu admin.
Si, c'est gratuit que je suis invité au Four Seasons, bien sûr. Oui,
maintenant qu'elle a 10 000 abonnés sur Instagram.
Ah, elle a franchi la barre des 10 000.
Je crois.
Ouais. Dans votre pièce jointe aujourd'hui, Manon.
Un film catastrophe qui met en scène la fin du monde de 2012, ça vous donne une idée du titre. Ah. En tout cas, les Américains sont obligés de se trouver une autre capitale.
Face à vous, Franck, il va prendre des notes aujourd'hui. Je vous présente le président du CARP, le comité pour qu'Alençon remplace Paris. Hey. Et que Made in Normandie de Stone et Chardenne remplace la Marseillaise. Bien pour l'instant, sûr. Ils ont récolté 16 signatures. Bonjour Quentin, lui.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour tout le monde.
Alors Quentin, dans la rue, les passants, ils savaient que Jakarta ne serait bientôt plus la capitale de l'Indonésie?
Non, évidemment, et c'est peut-être intéressant de le dire d'ailleurs. J'ai appris cette info à la plupart des gens que j'ai rencontrés. Alors, comment on fait un micro-trottoir avec des gens qui n'ont rien à dire sur le sujet? Vous le découvrirez avant
16h30. Beau teasing.
Comme je vous le disais, c'est loin d'être la première fois qu'un pays change de capitale, comme nous le découvrirons vers la demi, dans un Zoom Zoom test consacré aujourd'hui à ces villes qui ont été des capitales, mais vous n'en aviez aucune idée. Tenez Manon, Angers par exemple. Au début du 19e, Angers fut la capitale de...
Mais arrêtez, de rien du tout.
Ah oui, bien vu, on n'est pas tombé dans le
vous
piège.
Vous prenez pour une idiote.
Vous allez être étonné dans le coup, parce qu'il y a des villes beaucoup plus petites qu'Angers qui ont été des capitales. Mais Lisa Perriot devrait nous rejoindre également en fin d'émission, une nouvelle fois grimée, procédé toujours payant en radio, ce sera juste avant 17h. Après 17h, alors que Cyril n'est toujours pas remis du procès politique dont a été victime Nicolas Sarkozy, nous zoomerons justement sur le système judiciaire français avec quelqu'un qui le connaît de l'intérieur, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic sera avec nous jusqu'à 18h. Mais d'abord, alors Franck Tétard, cap sur l'Indonésie. Dans l'avant-propos de votre livre, vous faites la distinction déjà entre capitale et État. Pourquoi c'est important de marquer cette différence?
Parce qu'un État, c'est une entité qui est caractérisée par des frontières, par des institutions et puis par une population. Et la capitale, c'est finalement le lieu du pouvoir, où le pouvoir s'installe. Et donc, il y a une valeur très symbolique à la capitale. Et c'est pour ça que le choix de la capitale peut changer, évoluer en fonction des contingences et des évolutions politiques.
Est-ce qu'on peut dire que ça a marché pour le Brésil avec Brasilia qui a été construite de toutes pièces?
Ça a plutôt bien marché, oui, puisqu'on a aujourd'hui un vrai pouvoir fédéral qui se trouve à Brasilia. Déjà, la capitale est jolie, puisqu'ils ont pris un architecte renommé qui a su faire le boulot. Et puis, ça a permis un petit peu, dans le projet géopolitique du Brésil, de recentrer le pouvoir au centre des terres et de montrer que le Brésil, c'était aussi de l'intérieur, puisque finalement, il y a une concentration de la population autour de Rio São Paulo. Et là, ça a permis aussi d'avancer vers l'intérieur et de montrer que l'avenir était tourné vers l'intérieur.
Zoom donc aujourd'hui sur ces capitales déplacées de l'histoire. Lui, il a conservé quelques solides amitiés en Indonésie. Son copain Ruud van Nistelrooy, bien sûr. Niels van Houten, évidemment, avec qui il a passé des soirées à refaire le monde en chantant Rikita, jolie fleur de Java.
C'est Ruud qui chante là.
C'est la voix de Ruud. 1926, l'année de vos 20 ans, Cyril. L'Indonésie était hollandaise et, comme vous me le disiez en antenne, elle ne s'en portait pas plus mal. Ce qui nous amène néanmoins à notre question du jour. Nusantara, nouvelle capitale, enfin plutôt future nouvelle capitale d'Indonésie. D'où
c'est
ça sort
C'est mon micro.
Vous savez, elle a 35 ans demain.
Non, demain, elle rentre dans sa 35e année.
Pardon, 34 ans.
Oui, rétablissons la vérité.
Alors on y va. Imaginez une capitale qui coule littéralement. La ville est bien engloutie par la mer. Une capitale asphyxiée par ses 30 millions d'habitants. Alors on construit une capitale flambant neuve, une capitale créée de toutes pièces en plein cœur de la jungle de Bornéo. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est Nusantara, la nouvelle Jakarta. Nusantara, c'est un mot sanskrit qui signifie archipel, budget du projet, plus de 30 milliards de dollars. Et pourquoi il a fallu Nusantara? Eh bien parce qu'une partie de Jakarta pourrait disparaître d'ici 2050. C'est en 2019 que le président Joko Widodo tranche, l'Indonésie doit se doter d'une nouvelle capitale. L'objectif, créer une cité verte et high-tech alimentée par les énergies renouvelables et traversée par des bus autonomes. L'Indonésie voit cette ville comme une vitrine du futur, un peu comme Wakanda dans Black Panther. Ceux qui ont vu le Disney comprendront.
Mais tout le monde n'adhère pas, c'est ça le problème?
Et bien sûr que non, en effet. Les opposants reprochent au président Widodo des destructions écologiques, des déplacements forcés de populations locales. Et puis, il y a évidemment l'aspect financier. 30 milliards de dollars quand 9% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Forcément, ça leur laisse penser que Joko Widodo veut surtout laisser son empreinte dans l'histoire, à voir ce que fera son successeur, Prabowo Subianto de cette Nusantara.
Beaucoup de noms compliqués pour nous aujourd'hui, Cyril.
Alors, d'où ça sort, Nusantara? Eh bien de là, Quentin, le rire comme un bêta. Et c'est que le début de notre histoire, mon vieux.
Quelle bêtesse, ou ce Quentin. Quentin. Merci, Cyril. Franck Teta, vous en parlez dans votre livre, hein, de ce transfert de capitale de Jakarta à Nusantara. Vous rappelez surtout que Jakarta a toujours fait face au péril de la mer. Ce sont les Néerlandais qui l'ont construite à l'image d'Amsterdam. Finalement, c'était une ville qui, à la base, était vouée à disparaître sous les eaux un jour.
En tout cas, c'est une ville qui est d'abord au bord de l'eau et qui est quand même très basse et surtout qui se situe à l'endroit où s'écoulent les rivières parce que c'est assez plat en bord de mer. Et donc, par conséquent, quand les Hollandais sont arrivés, ça ressemblait pas mal à la Hollande. Ils ont fait des canaux, ils ont construit une petite ville qui était une petite Amsterdam.
Et finalement, c'était une erreur.
C'était peut-être une erreur d'implantation. En tout cas, c'est peut-être pas initialement, mais au fil du temps et en raison de l'urbanisation galopante, on est quand même passé à 30 millions d'habitants aujourd'hui et c'est ingérable.
L'engloutissement de Jakarta est aussi la conséquence d'un urbanisme débridé, une artificialisation des sols, évidemment. La pollution, vous racontez tout ça néanmoins. Pour construire leur nouvelle capitale, les Indonésiens détruisent aussi d'immenses espaces en forêt sur l'île de Bornéo. Il y a là quand même un paradoxe.
Alors, il y a sans doute un paradoxe. Il y a un choix qui a été fait de construire sur cette île, mais avec des conséquences, effectivement, sur l'environnement. Ça a été rappelé un instant aussi sur les populations autochtones qui sont aussi impactées par ce projet. Mais évidemment, le choix, c'est aussi de faire un symbole d'unité nationale, puisque l'île de Bornéo est au centre de l'archipel indonésien, et donc au-delà même du projet de déplacement lié au risque climatique. On a aussi la volonté symboliquement de créer une capitale qui fait trait d'union avec tous les peuples indonésiens.
Autre paradoxe, vous expliquez aussi que les pauvres n'auront peut-être pas accès à cette ville, cette nouvelle ville de Nusantara. Qui pourra habiter la nouvelle capitale?
Alors d'abord, ça va être une ville de fonctionnaires, puisque c'est vraiment le centre administratif de l'ensemble de l'archipel qui va devenir cette capitale. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, ont été construits déjà le palais présidentiel et un certain nombre de bâtiments. Et ensuite, ça va être une population qui va sans doute être une population migrante, qui va venir des autres îles et notamment de Java. Il faut savoir qu'à Java, il y a quand même 57% de la population indonésienne, donc environ 150 millions sur une île. Le reste est beaucoup moins peuplé, et donc il y a cette volonté aussi de ce qu'ils appellent des transmigrations. C'est un projet indonésien assez ancien, justement pour un petit peu équilibrer la population.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et si demain Mulhouse était la nouvelle capitale de la France ?
Mais quel enfer !
Eh bien préparez-vous Manon, préparez-vous car des pays qui changent de capitale, c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Oui. Le docteur en géopolitique Franck Tétard est avec nous pour son livre passionnant Atlas historique des capitales déplacées, 70 capitales qui ont déménagé au fil des siècles, c'était aux auditions Autrement. Alors Franck, on a parlé de la nouvelle capitale indonésienne, pas très loin il y a aussi la Birmanie qui a déplacé sa capitale, c'était il y a 20 ans. Cette histoire est dingue, c'est un astrologue qui a conseillé au chef de l'État de l'époque de quitter Rangoon pour construire une nouvelle capitale au milieu de nulle part. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable ?
Oui, alors ça c'est l'anecdote, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus pragmatique, la raison qui a guidé la junte au pouvoir, parce qu'on est quand même sur un État avec une junte militaire, avec un chef de l'État qui est complètement paranoïaque. Il a peur d'une chose, c'est la foule, et donc d'être renversé, et en plaçant la capitale à l'intérieur, au milieu de la jungle, et on s'éloigne de Rangoon, qui est une ville qui est effectivement très peuplée, qui grouille de population, d'une jeunesse étudiante très importante, et les grands soulèvements de l'histoire indonésienne ont lieu à Rangoon en 88 avec le mouvement de Aung San Suu Kyi, et puis aussi en 2007, là il y a eu un grand mouvement, et du coup ils étaient très contents d'avoir déménagé en 2005.
Ah, ils avaient bien fait finalement.
Et ils ont quand même été, enfin le chef de la junte a décidé de se faire conseiller, et donc on lui a conseillé de procéder au déménagement le 5 novembre 2005 à je crois 16h47, enfin c'était une heure très précise, ou 6h47 du matin, il fallait qu'on inaugure officiellement la capitale à ce moment-là.
Mais comment on fait concrètement pour déplacer une capitale ? Il y a un référendum, on demande quand même l'avis des habitants.
Alors,
du pays
ou En démocratie, oui, on peut faire un référendum. Souvent, ça passe quand même à l'Assemblée nationale, il y a des choix politiques qui sont faits. Dans le cas de la junte militaire, ça a été plutôt imposé au Birman.
Mais c'est dans les textes, par exemple, le fait que Paris est la capitale de la France, qui est relativement indiscutable, est-ce que c'est dans un texte, c'est pas dans la Constitution française que Paris est la capitale de la France ?
Je crois pas, mais dans certains États, c'est spécifié.
Ah, c'est spécifié par la Constitution.
Ça dépend des États. Certains États, d'ailleurs, ont plusieurs lieux de pouvoir, comme l'Afrique du Sud. Et là, c'est spécifié où se trouve tel pouvoir.
Sur tous les États dans le monde, c'est plutôt rare la configuration française où dans une ville est concentré le pouvoir économique, le fait que c'est aussi la capitale, ou la plupart des pays, c'est plutôt une capitale économique et une capitale...
C'est très variable.
Ah, c'est variable.
C'est très variable. Et en plus, en fonction de la structure de l'État, dans les États fédéraux, on a effectivement plutôt un certain nombre de centres de pouvoir, plus un pouvoir politique. Alors que dans les États centralisés, on va souvent avoir la concentration et du pouvoir politique et du pouvoir économique.
C'est-à-dire à quel point on est centralisé en France.
Oui.
Quentin ? On parle aussi de capitale culturelle, économique. Vous pouvez citer des exemples un peu de ça ? Il y a plusieurs capitales dans certains pays ?
Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, historiquement, donc, la capitale c'est Abidjan. Ça reste aujourd'hui le pouvoir économique, mais a été créée une nouvelle capitale qui s'appelle Yamoussoukro, qui est au milieu du pays. Et c'était un peu le rêve du Fouet de Boigny. Il a quand même construit la réplique de Saint-Pierre de Rome dans son village natal, et il en a fait la capitale du pays. Donc là, on a effectivement la distinction, et vous avez plusieurs lieux. Par exemple, si on prend même l'Allemagne, Berlin n'est pas le centre et le poumon économique de l'Allemagne, puisque c'est plutôt les villes de la Ruhr, c'est Francfort, c'est Munich, il y a en fait plusieurs centres économiques, et Berlin, en plus du fait de l'histoire marginalisée en raison de la division, s'est retrouvé beaucoup moins industrialisé que le reste du pays, et on a le pouvoir politique est aujourd'hui à Berlin.
Puis il y a aussi évidemment les accidents de l'histoire. Si on prend le cas de la France, on l'a peut-être oublié, mais en 1871, Versailles devient la capitale de la République, alors que Paris est en pleine insurrection. Bordeaux a aussi été la capitale de la France en 1870, 1914 et 1940. Tours, également capitale de la France pendant 3 jours, entre le 10 et le 13 juin 1940. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi ?
Mais en fait, là, donc, avec mon co-auteur Pierre-Alexandre Mounier, on a voulu voir aussi s'il n'y avait pas des situations particulières qui faisaient que le pouvoir pouvait déménager. Et en période de guerre, effectivement, ou de crise politique, le pouvoir des ménages, et les cas qu'on vient d'évoquer, c'est pour la France, effectivement, au moment de la Commune, enfin, déjà la guerre contre la Prusse, le pouvoir eh bien, s'en va du front et de l'approche des Prussiens, et donc on va déménager à Bordeaux, puis Versailles, et puis de nouveau, en 14 et en 40, eh bien, le Parlement, tout le monde déménage, on prend les bagages, à peu près un millier de fonctionnaires vont en 1940 partir à Bordeaux, mais on fait une étape, on s'arrête à Tours pendant 3 jours.
Donc c'est là que c'est
la capitale de transit avant de continuer jusqu'à Bordeaux.
Il est le 3e Normand le plus célèbre après Ousmane Dembélé et Aurel San, mais devant Édouard Philippe.
Il y en a d'autres. Hein.
Quentin, chaque après-midi.
Daniel Balavoine, par exemple.
Oh, Daniel Balavoine.
Mais à Alençon.
Ça, je vais vous dire, on l'a oublié.
Oui, on sait peu.
Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des gens pour les faire réagir à notre thème du jour. Alors, ces pays qui changent de capitale, ça leur inspire quoi?
Ah, quand j'ai dit Nusantara, mais les gens m'ont sauté dessus, les mouvements de foule. Quentin, nous aussi, on veut donner notre avis. T'es le relais de la voix du peuple. Tiens, allez, au hasard, ce monsieur, pour commencer, que lui inspire?
Nusantara. Moi, ça ne me dit rien, très honnêtement.
Ça.
Indonésie, le projet de la nouvelle capitale qui doit remplacer Jakarta peine à sortir de terre. D'accord, je ne sais pas quoi dire.
Voilà, évidemment, je lui montre quand même quelques images, quelques articles, et c'est là où on est fort chez Zoom Zoom Zen. On est pile dans l'actu des discussions de la cantoche entre collègues.
Si, on en a parlé il y a peu de temps aujourd'hui pendant ma pause déjeuner. Si. J'ai deux collègues qui disaient que l'homme, à force de mal se comporter avec la planète, des automobiles, des usines, qui parfois respectent pas les conventions que nous, on essaie de mettre en place dans nos pays développés. Bon, quand elles utilisent encore trop le carbone, tout ça, bon, dans des pays qui émergent et qui ont besoin de rattraper leur retard, bon, ils pensaient que ça avait détruit peut-être certaines zones géographiques. Alors, je sais pas si c'est le cas à Jakarta, que la ville s'effondre à cause de ça. Bon, ça paraît être un détail, mais c'est ce qu'ils avaient l'air de dire.
Et c'est presque philosophique. À force de saturer son lieu d'habitat, l'homme se met en danger et son monde, littéralement, s'écroule. Cette jeune femme maintenant, car le sujet lui parle.
Oui, j'ai des origines thaïlandaises, de par ma mère. Et forcément, j'ai entendu parler de Bangkok qui s'effondre aussi à cause de son poids. Qu'on n'a clairement pas prévu tout le poids de nos constructions. Alors honnêtement, c'est quelque chose qu'en Thaïlande, tout le monde sait. Mais ça ne fait pas du tout partie des priorités stratégiques de comment est-ce qu'on va faire pour pallier à ce problème. C'est comme si on attendait juste que ça arrive, quoi.
Un peu plus de 10 millions d'habitants à Bangkok, 17 millions sur la région, et tant qu'on n'est pas au bord du précipice, l'homme semble ne pas vouloir y croire. Alors qu'elle attend son bus, son sac à main au bras, son jean taille haute et son portable à la main, je rencontre Juliette.
Attends, parce que là, du coup, ça me... Comme je suis stressée par ton micro, du coup, j'ai pas le... Mon cerveau fonctionne plus. L'Indonésie prépare un déménagement. En gros, ils sont en train de construire une nouvelle ville et Jakarta sera plus... Et du coup, ça veut dire qu'on recrée... Enfin, c'est presque un peu artificiel.
Ouais, en tout cas, on recrée une...
Mais du coup, c'est coupé... Enfin, il y a... Ben, on recrée une histoire, mais du coup, c'est une ville qui n'aura pas d'histoire, quoi. Mais je pense que l'histoire, c'est ce qui lie les gens aussi d'une ville. C'est ce qui les... C'est ce qui fait... On est une communauté, entre guillemets.
Et c'est sans doute ça le plus dur, le déracinement des habitants. On n'efface pas son histoire comme ça, même avec la meilleure volonté politique possible. Je continue avec Juliette sur les lieux de pouvoir.
Toi, t'es parisienne?
Oui.
Une vraie parisienne?
Oui.
Est-ce que t'imagines qu'on change... C'est marrant de déplacer le pouvoir, parce que c'est ça aussi, là. Comment t'imaginerais ça en France?
Si, par exemple, on déplaçait l'Assemblée nationale à Melun ou à... ou à Metz, à Marseille.
Marseille? C'est... Attends, ça serait hyper mal vu, non?
De déplacer Paris à Marseille, ce serait mal vu par qui? Par les Marseillais?
Peut-être.
Je pense qu'ils seraient pas très contents. Il y a déjà beaucoup trop de Parisiens à Marseille. Non, mais pourquoi pas redynamiser un territoire en déménageant des lieux de pouvoir, par exemple au Mans?
Ah oui, le Mans, capitale de la vitesse, peut dire que le gouvernement il serait nommé EFISA. Avant de me quitter, Juliette me parle de Venise, ville qui s'enfonce également dans la mer Adriatique.
Bah, ça montre aussi nos limites parce qu'on n'arrive pas à stopper ça, par exemple. Mais c'est comme, par exemple, ça me fait penser au mec au Cap Ferret qui bétonise tout autour, il vit tout au bout de la presqu'île. Je sais pas si tu connais... le Cap Ferré, mais en gros, tout au bout, ça fait très parisien de dire Cap Ferré quand même. Et très bourgeois, mais c'est pas grave. Mais t'as un mec qui, avec l'érosion et la montée des eaux, et l'érosion, en gros, c'est en train de se casser la gueule là où il a sa maison. Et il a investi des millions et des millions et des millions sur les dernières années pour tout bétoniser.
Ça dit que l'homme va jusqu'au bout, quoi. Pour ouais, essayer de sauver...
Oui, mais je pense qu'on atteint des limites dans tous les cas où ça sera pas... Enfin... où il faut des changements d'ampleur.
Et moi, je me dis qu'après tout, déménager une capitale, ce n'est pas seulement déplacer des ministères ou rebâtir des palais, c'est peut-être aussi l'aveu qu'on n'a pas su protéger le lieu d'où l'on vient. On ne fait que décaler les problèmes, parce que surpopulation, pollution, montée des eaux, ils voyageront peut-être aussi vite que le carton.
Merci Quentin pour ce micro-trottoir avec effets spéciaux. On était vraiment au Mans et on a senti que vous n'avez pas eu besoin de meubler du tout hein, pour, parce que vous avez eu tellement de réactions sur le sujet qu'effectivement voilà, ça ne s'est pas senti. Franck Tétard, est-ce que finalement l'erreur c'est de croire qu'on met les problèmes sous le tapis en déménageant, en changeant de capitale? Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Jakarta va continuer à exister? Elle va péricliter ou elle va...
Bah, c'est une excellente question puisque Jakarta c'est quand même le poumon économique du pays, donc l'économie ne va pas déménager ou en tout cas pas au même rythme. D'ailleurs, ce projet de capitale de Jakarta à Nusantara est intéressant parce qu'il est programmé sur plusieurs années. Ils veulent que la capitale soit complètement fonctionnelle en 2049, donc on a un petit peu de temps.
Ah, on a un petit peu de temps, on est très en avance dans Zoom.
On est un peu en avance puisqu'ils veulent que ça coïncide avec le 100e anniversaire de la fondation de l'Indonésie.
Enfin, si le pays, enfin si Jakarta tient, parce que si elle s'enfonce et que ça s'écroule.
Alors, effectivement, il y a le vrai problème aujourd'hui du fait que effectivement la ville s'enfonce hein, et va être submergée par les eaux, qui nous fait penser qu'à peu près 70% de la ville d'ici 2050 pourrait être inondée. Donc, ils vont quand même être obligés de se bouger et
peut-être
de préparer
encore plus vite que prévu.
Oui. Et alors, il y a une première étape, c'est 2028, là, dans les derniers papiers que j'ai lus, qui serait le moment où officiellement le gouvernement, les ministères, le Parlement déménagent pour être fonctionnel à partir de 2028 et puis progressivement pour avoir une vraie capitale. Mais je pense que l'économie va être obligée de suivre en partie, oui.
Mais ben Juliette, elle a raison sur un point dans le micro-trottoir quand elle dit qu'on construit des nouvelles villes. Du coup, c'est des villes qui vont être, entre guillemets, sans histoire.
Oui, mais il y a un moment, l'histoire commencera là. Évidemment. Oui, oui, elle a raison. Après, il y a des symboliques. Et là, de recentrer cette capitale, justement, sur une île qui fait le lien avec les petites îles où vivent des minorités, notamment chrétiennes, dans les Célèbes, c'est aussi une façon de réunifier le territoire.
Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment, quand on regarde la carte, c'est vraiment au centre par rapport à Jakarta qui est très à l'ouest.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment cette idée de centralité. Et c'est souvent, d'ailleurs, un des choix qui est fait lorsqu'on change de capitale, c'est vraiment de mettre une capitale le plus accessible possible en étant le plus près d'une sorte de centre géographique. Ça a été fait souvent. Par exemple, au Nigeria, on est passé de Lagos, qui est sur la côte, à Abuja, qui est vraiment au centre. Et vraiment, l'idée, c'est que toute la population puisse, à peu près à égale distance, converger vers la capitale.
On ferait comment en France? Bourges?
Alors, en France, Bourges, pourquoi pas Bourges, mais je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour, vu la centralité de Paris. Oui.
Oui, Paris est central, non? Ah non, central dans le
c'est
Nord.
Plutôt
oui,
dans le Nord,
oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je l'oublie, vous voyez, comme quoi.
Vous êtes
je deviens vraiment plus parisien que les Parisiens, pour un Suisse. C'est quand même étonnant. Ouais. Et il y a une question qui revient dans le micro-trottoir, c'est que les villes s'enfoncent. Il y a des villes qui vont disparaître, peut-être, comme Jakarta. Est-ce que vous pouvez nous alerter sur les villes qu'il faut peut-être visiter en priorité, parce qu'elles vont disparaître?
On arrête l'avion,
par exemple. Venise, est-ce qu'il faut visiter Venise vite?
Alors, à Venise, il y a le problème des inondations récurrentes de la Acqua Alta, l'eau qui monte, et ils sont en train de... Il y a tout un projet de préservation qui s'appelle Moïse pour justement...
Ah, pour stopper cette...
Pour stopper, oui. Donc, ouais. Normalement, ils sont en train de travailler pour éviter que la ville soit complètement inondée.
Et
ça arrive de manière régulière.
Oui, Bangkok.
Bangkok, oui, c'est une vraie question là, qui est posée. Moi, je suis pas spécialiste de Bangkok, mais j'ai entendu effectivement dire qu'il y avait ce problème d'affaissement. C'est un peu la même chose qu'à Jakarta, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup pompé dans les nappes phréatiques et dessus on a construit des immeubles qui sont très lourds et donc au bout d'un moment tout ça s'affaisse et comme c'est vide en dessous, bah, ça n'aide pas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Déplacer une capitale, pourquoi faire? C'est Hidalgo qu'il faut déplacer. Vivement Rachida, philosophait Cyril. Négligemment accoudé aux zincs du Blériot pendant que William essuyait ses verres à vin en sifflotant du Gilbert Bécaud. Manon et Quentin, vous l'avez prouvé avec brio par le passé, vous êtes des férus de géographie. Ce quiz spécial capitale déplacée devrait donc vous permettre de démontrer à nos auditeurs toute l'étendue de votre savoir, fut-il gay ou pas. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui va nous ramener à l'époque bénie où Pierre Courade n'était pas le présomptueux rédacteur en chef adjoint de Zoom Zoom Zen, mais la tête de turc du lycée Notre-Dame de Bétarame, et où sa propension à déjà tout savoir mieux que tout le monde agaçait prodigieusement ses camarades. Il suffisait qu'un élève dise « Oh, moi les gars, cet été j'étais à Sydney, la capitale de l'Australie. »
Toujours quelque chose à dire, le professeur Courade.
Pour que Pierre intervienne,
alors non,
je vous arrête là. Sydney, c'est la plus grande ville d'Australie, mais la capitale administrative, c'est Canberra. Pas étonnant que Pierre ait si souvent fini bâillonné dans les sanitaires.
Oh.
Jouons donc avec ces villes dont on ne sait toujours pas qu'elles ont été un jour des capitales. Et on commence là où tout bon quiz se doit de commencer, en France. Vous connaissez tous Paris, mais parmi les villes suivantes, lesquelles ont été notre capitale? Tours, en Indre-et-Loire? Limoges, en Haute-Vienne, ou Tournai, en Belgique?
Ah, bah on l'a dit tout à l'heure.
A et B.
Vous dites la réponse.
Les trois.
Effectivement, on a dit Tours tout à l'heure.
Les trois. Ou A, B?
Non.
Assez.
Oui, mais c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Juste à quelques secondes près. Maintenant, c'est dommage. C'était effectivement les réponses A et C. Tours, une ville chargée d'histoire qui, oui, fut la capitale du Royaume de France durant la guerre de 100 ans. Celle que n'a jamais digéré Cyril, qui, à chaque fois que l'Angleterre veut nous imposer quelque chose, déclare péremptoire.
C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde. Je sais pas, je comprends pas. Moi.
Toute Tours, capitale de la France, donc durant la guerre de 100 ans, et sous Henri III, alors que Tournai, en Belgique, a bien été la capitale du Royaume franc, mais sous Childéric, ça remonte un peu puisque c'était en 458. Ah oui. Pour votre gouverne, sachez que toutes les villes suivantes ont aussi été à un moment capitale de la France: Lens, Soissons, Quierzy, Bourges, Compiègne et Lyon. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons déjà eu...
Lens, L-A-O-N,
dans le Nord. Vous ne connaissez pas visiblement... Vous ne connaissez pas.
Quentin ne connaissait pas non plus.
Moi, j'y suis allé.
Ah
oui, ça s'écrit Laon, mais ça se prononce Lens.
C'est effectivement.
Okay. Oui. Je salue d'ailleurs des connaissances là-bas. J'ai connu un petit peu cette ville à un moment de ma vie.
Ce qu'il faut retenir,
qui est important, c'est que nous avons déjà eu une ville belge comme capitale.
Quelle indignité.
Séchez vos larmes, Cyril, car vous serez heureux d'apprendre qu'une ville française a été choisie pour être capitale d'un pays étranger. D'après vous, s'agit-il de Sainte-Adresse, près du Havre, capitale de la Belgique, Sarre, au Pays Basque, capitale de l'Espagne, ou Saint-Gervais-les-Bains, capitale de l'Italie?
B.
Pour vous, c'est cette ville du Pays Basque. Et vous, Sainte-Adresse, ça vous plaît? Vous connaissez bien?
C'est très beau à côté du Havre. Hein.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Aux portes du Havre.
Il y a eu un clin d'œil.
Vous avez donc triché, Manon.
Bah oui.
Très bien.
Mais je n'ai pas triché. Et quand on a dit la mauvaise réponse.
C'est noté. Aux portes du Havre, dans un écrin iodé où Manon Mariani pourrait survivre tout au plus 48 heures, Sainte-Adresse fut pendant 4 ans, durant la Première Guerre mondiale, la capitale administrative du royaume belge, alors occupée par les Allemands. Loin, très loin du Havre, partons pour le Cachemire indien. Une région bien connue de notre réalisateur Ghislain Fontana, puisque c'est là que s'est réfugié son père, le gourou tantrique Jean-Pierre Fontana, recherché par Interpol pour...
vol, incendie, dégâts des eaux et concubinage avec une jument.
Mais... ouais, un sacré bonhomme, le père Fontana. Mais outre la spiritualité et les pulls à un smic, le Cachemire a également une particularité concernant sa capitale. Laquelle? Il y en a deux, suivant l'ethnie au pouvoir.
Quoi?
Il y en a deux capitales suivant l'ethnie au pouvoir. Il y en a une pour chaque caste. Ou il y en a une pour l'été et une pour l'hiver.
C'est
B.
Une capitale saisonnière.
Ah, capitale marrant, saisonnière, ça serait drôle. Et parfois, la vie est drôle. Bonne réponse de Quentin. Ingénieux Cachemiri, le Darbarmov, qui a perduré jusqu'en 2021, représentait l'alternance entre deux capitales, Srinagar en été, car agréable à vivre en cette saison, mais difficilement accessible en hiver, et Jammu, beaucoup plus praticable en hiver, mais étouffante en été. Oui, on a une seule musique pour tout le continent indien. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas ma faute. C'est la base de Radio France.
XTR, Zik, indienne.
Une pratique qui remontait au 19e siècle et instaurée pour des raisons climatiques mais aussi politiques, la région de Srinagar étant majoritairement hindoue et celle de Jammu musulmane. C'était parfait. Mais attention, top.
Quel est d'après vous
Jammu. Le point commun entre les trois capitales suivantes: Bombay, Abidjan et Zurich? Ce ne sont pas des capitales, comme quoi des fois on croit alors qu'en fait on ne sait pas. Elles sont toutes les trois sur la liste des paradis fiscaux de l'ONU, où elles portent toutes les trois le nom d'un saint.
Oh, c'est dur. Les trois?
Je vais dire B.
A et B.
Non, B? Vous n'avez pas la bonne réponse. C'était uniquement la réponse A. Bombay, Abidjan, Zurich sont de faux amis, un peu comme Pierre Courade pour Manon. Zurich n'est pas la capitale de la Suisse, c'est Berne. New Delhi est la capitale de l'Inde. Et la capitale de Côte d'Ivoire, on en a parlé, c'est Yamoussoukro.
On est vraiment Abidjan. Bête.
Vous êtes même des buses, on peut le dire.
Ouais,
question bonus pour finir, quelle est la capitale la plus chiante du monde selon Pierre Courade? Est-ce Mindelo, Praia ou Porto Novo?
C, j'ai pas écouté, pardon.
Ah, moi non plus, bah B, c'est ça, non?
Bonne réponse de Quentin, dit la B. Praia, capitale du Cap-Vert, dont étonnamment, le ministère du Tourisme ne nous a pas contacté pour un partenariat. Victoire magnifique de Quentin, lui.
Ah oui,
sur un quiz géographie, c'est surprenant. Tout arrive.
Je suis là, moi.
Quand un pays se choisit une nouvelle capitale, Zoom sur Nusantara en Indonésie aujourd'hui dans Zoom Zoom. Franck Tétard, docteur en géopolitique, est toujours avec nous pour son livre passionnant Atlas historique des capitales déplacées, publié aux éditions Autrement. Franck, vous dites quelque chose d'important, que le concept d'État et donc de capitale, qui est souvent lié, c'est très occidental finalement.
Oui, parce que l'État qui est quand même un concept qui est né en Europe, et à partir de là, de choisir un lieu de pouvoir fixe va être en Europe. Vous avez rappelé pendant le Moyen-Âge, à l'ère de 100 ans, que notre capitale se trouvait à Tours. C'est vrai qu'en fonction des guerres et des fronts, les capitales bougeaient constamment.
C'était pas important.
Il y a encore la Suisse aujourd'hui, il y a des capitales d'ailleurs, enfin il y a eu pendant assez longtemps une capitale tournante. Mmh. Donc on voit que ce pouvoir bouge, et le modèle occidental va aussi faire que la capitale se pose, et le pouvoir se pose en un lieu très défini, et qui va aussi être un lieu symbolique de l'exercice du pouvoir, avec des institutions, avec des lieux de pouvoir et des symboles très forts.
Et puis il y a des capitales aussi qui ont été nouvellement construites pour être pour incarner une forme d'indépendance par rapport au pays, une neutralité quelque part au sein même du pays. Est-ce que on peut dire que c'est le cas de Brasilia ?
C'est le cas de Brasilia, c'est le cas de Washington, puisque lorsque les 13 colonies deviennent indépendantes, elles cherchent une capitale, et il y a un moment, il faut choisir une capitale qui est un territoire neutre, et donc on va créer de ex nihilo Washington.
Mais donc sans Quentin. Histoire, et on en revient, est-ce que ça ne conduit pas à des capitales administratives sans âme, sans vie?
Ça peut arriver, par exemple, de la même façon, lorsque la Turquie moderne est née en 1923, ils ont quitté Constantinople, Istanbul, pour créer une nouvelle capitale à Ankara. Et les fonctionnaires ne voulaient pas y aller, personne ne voulait y aller. Et donc pendant très longtemps, c'était une capitale de célibataires, il n'y avait que des hommes, et tous les week-ends, ils rentraient à Istanbul pour retrouver la famille. Et ça a pris du temps pour véritablement que cette capitale devienne une capitale vivante avec...
Est-ce qu'il y a le cas aujourd'hui, genre Ankara, c'est sympa?
Ah, j'y suis jamais allé.
Non.
Je préfère Istanbul.
Vous préférez Istanbul, comme quoi ça ne marche pas très fort, vous voyez, c'est bien ce qu'on dit, ça ne marche pas. Ben non.
Il y a une ville qui nous semblait toujours avoir été une capitale, c'est Rome. En fait, vous racontez dans votre livre que ça n'a pas toujours été le cas pour quelle raison?
C'est à cause de l'unité italienne, puisque finalement Rome va longtemps rester sous la domination des papes, et finalement lors de l'unité italienne, c'est la dernière ville qui est incorporée, donc provisoirement le pouvoir va s'installer à Turin puis à Florence, avant que l'unité italienne soit parachevée avec l'intégration de Rome. Et à ce moment-là, effectivement, le pouvoir politique et rentre dans cette ville symbolique qui a quand même été à la tête de l'Empire romain. Et donc c'est vraiment là, dans la continuité italienne, symboliquement très très fort.
Autre particularité qu'on note, les capitales sans État. C'est le cas de Taipei, qui est toujours la capitale de la République de Chine, opposée à la République populaire de Chine communiste.
Oui, alors là, on est sur une ambiguïté juridique, hein, puisque vu que l'État officiel reconnu, c'est la République populaire de Chine communiste, et que lorsque celle-ci fait son entrée aux Nations Unies dans les années 70... Taïwan, est écarté des Nations Unies, et donc n'a plus de reconnaissance officielle, et du coup se retrouve sans être reconnu comme État.
Petite question actualité, Franck Tétard, c'est pas la plus simple, hein. Une dizaine de pays ont reconnu la Palestine la semaine dernière à l'ONU, l'État de Palestine. Quelle est ou quelle pourrait être la capitale de cet État de Palestine?
Il me semblerait évident que ça soit Jérusalem-Est et qu'on parvienne à un partage. Ça a d'ailleurs été évoqué lors des différentes négociations qu'il y a pu avoir précédemment. Donc il y a notamment ce plan de Genève où on a redécoupé la ville en deux parties, avec une souveraineté partagée sur les lieux saints. Enfin, en tout cas, un accord qui permet
en tout cas,
cela.
Politiquement, on n'est pas prêt, mais géographiquement, on a à peu près la solution.
On a la solution, pour l'instant.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir celle qui aura 34 ans demain. C'est important de le rappeler, car le temps passe, ma foi, et il passe pour tout le monde. La pièce jointe de Manon Mariani.
Un film aujourd'hui, pour beaucoup c'est une bouse, pour Quentin c'est un chef-d'œuvre. Le blockbuster 2012, signé Roland Emmerich.
Le jour où nous cesserons d'aider notre prochain, à ce moment, nous aurons perdu notre humanité.
Voilà, une belle bande-annonce montée par notre réalisateur Ghislain Fontana. 2012, donc, un film catastrophe qui reprend à la lettre tous les codes du genre. Explosion à grande échelle, course contre la montre, famille déchirée et la fin du monde annoncée par le calendrier Maya. Vous vous en rappelez, c'était censé être le 21 décembre 2012. Certains flippaient. Résultat, on est toujours là. 3 ans avant, Roland Emmerich a donc eu l'idée de surfer sur cette fin du monde annoncée. Le réalisateur est connu pour ses films catastrophes comme Independence Day ou Le jour d'après. Et pour 2012, il a vu les choses en grand. 200 millions de dollars de budget. John Cusack, Tandy Newton, Woody Harrelson sont au casting. Je vous résume le film pour ceux qui seraient passés à côté.
Ah non, mais même pour ceux qui l'ont déjà vu.
C'est toujours agréable.
Un alignement planétaire provoque l'instabilité du noyau terrestre et des cataclysmes mondiaux, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques. Un écrivain raté, Jackson Curtis, tente de sauver sa famille tandis que les gouvernements construisent en secret des arches géantes pour assurer la survie d'une élite.
Oui, c'est toujours un peu la même chose.
Totalement. Ce qui est intéressant toutefois dans le film, c'est que l'Afrique devient le seul continent encore habitable. À la fin du film, les gigantesques arches quittent les montagnes de l'Himalaya pour naviguer jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, car après la montée des océans, l'Afrique australe émerge comme la seule terre viable. Une inversion quand même des perspectives. Jusque-là, le continent africain était souvent montré au cinéma comme victime des crises mondiales, marginalisé dans les récits. Dans 2012, il devient au contraire le centre de gravité de l'humanité, la destination où convergent les survivants venus de toute la planète. Le Cap devient la nouvelle capitale du monde. La dernière scène montre les arches voguant vers l'Afrique, nouveau berceau de l'humanité. Ce qui fait aussi un peu Colomb, car n'oublions pas que la subtilité n'est pas le fort des Américains.
Bah, oh, bah, des propos, des propos qui n'engagent que vous,
ça
maintenant.
Ça m'a quand même donné envie de le revoir.
Oh là là.
Une fois de plus, mais vous l'avez vu déjà combien de fois.
Vous savez, quand il y a le personnage qui incarne la reine d'Angleterre qui monte à bord de l'arche avec tous les
c'est
éléphants.
C'est vrai, j'adore.
Vous avez versé votre petite larme.
J'ai adoré ce film.
C'est nul.
À l'époque.
Franck Tétard, dans le milieu de la géographie, on sait que 2012 est un film très important.
Oui, Marc.
À l'université, on en parle beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique, par le changement climatique ou par des événements, pourrait devenir le centre du monde ou un refuge?
Alors là, je suis pas du tout spécialiste de la montée des eaux, donc je...
Ah, vous pouvez pas vous prononcer.
Je me prononcerai
pas. Parce que Quentin aurait voulu savoir si 2012 était vraiment prophétique ou pas. Mais visiblement, personne ne le sait.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Surtout, ne l'accablons pas. Le garçon qui nous rejoint a vécu une rude semaine, malmené par notre réalisateur qui, mardi, a carrément choisi de lui indiquer qu'il avait débordé en coupant son tapis musical, le laissant finir sa chronique à blanc. Malmené également par nos invités, dont même les plus timides ont pris le temps de lui dire ce qu'ils pensaient de son travail approximatif.
Vous avez hyper bien retenu tout ce que j'ai dit, sauf mon nom.
Pierre Courade, n'écoutez pas les invités, ces tatillons qui pinaillent sur la prononciation de leur nom, et résumez-nous plutôt tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai exigé un invité au nom bien français, Franck Tétard. Franck, qui nous a présenté un atlas passionnant consacré au capital déplacé. Ça ressemble à une thématique de niche, comme quand on a parlé de pet parenting, sans mauvais jeu de mots, Quentin. C'est au contraire un sujet d'actualité, car pas plus tard que l'an dernier, l'Indonésie a changé de capitale. Jakarta sombre dans la mer sous l'effet du dérèglement climatique. Il a alors été décidé de construire une nouvelle capitale à Bornéo, Nusantara. Franck Tétard nous a rappelé que la France, elle aussi, a dû changer de capitale dans l'urgence. Bordeaux a 3 fois remplacé Paris entre 1871 et 1940. Heureusement, ce n'était que provisoire, car il n'y a pas plus désagréable qu'un Parisien, mis à part un Bordelais. Franck Tétard nous a aussi expliqué que le choix d'une capitale peut avoir plusieurs utilités. Le lieu d'un pouvoir recentré, comme lorsque Brasilia a remplacé Rio. Un symbole d'unité nationale, comme Berlin préféré finalement à Bonn. Mais c'est aussi un choix totalement ésotérique qui peut présider à cette décision. C'est le cas de Naypyidaw en Birmanie, qui a remplacé Rangoon sur les conseils d'un astrologue pour protéger la junte militaire. On a aussi appris que Quentin s'auto-qualifiait de voix du peuple et Manon, à elle, a appris l'existence de Laon, charmante préfecture de l'Aisne et ancienne capitale carolingienne.
Préfecture de l'Aisne, évidemment. Voilà.
France, non, vous allez vous corriger. Vous voulez dire Lens, peut-être?
Oui, vous voulez dire Lens.
Je croyais que j'étais trop maligne, pas du tout.
Mais ce qui est fou, c'est que vous connaissez Lens. Oui.
Merci Pierre Courade. Aujourd'hui, nous recevons donc presque un ancien collègue à moi. Je suis très ému. Bonjour Stéphanie Bern.
Oui, bonjour. Je suis Stéphanie Bern. Je suis ravie de me recevoir.
Nous aussi, Stéphanie. Vous êtes une grande historienne indépendante. Vous êtes également la sœur de Stéphane Bern.
Non, je me permets de vous corriger, Mathieu Noël. C'est surtout lui qui est mon frère, pas l'inverse. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Mathieu, votre nom de famille Noël vient de votre tout premier ancêtre, Robert II de Courteheuse, qui résidait à Noailles. Vous le saviez?
Ah ben, je dois dire que non.
Eh bien, je dois dire que c'est normal. Vous êtes animateur. Alors que Franck Tétard et moi-même, nous avons fait des études. Et votre ancêtre, Mathieu, ce fameux Robert II, était connu pour sa grande taille, son courage et aussi parce qu'il était pédophile. D'ailleurs, vous savez comment on dit pédophile en italien?
Non.
Morandini. C'est une boutade entre historiens, c'est important, le rire. Franck et moi, nous avons beaucoup rigolé à l'université, on était ensemble, on se connaît bien jusqu'à ce qu'il me traite de folle. C'est ce que tu as dit, Franck, ce sont tes mots. Tu es folle, alors que de nos deux, Franck, qui est le plus fou? C'est toi, Franck, c'est toi. Tu es fou avec ton émission Le Dessous des Cartes. Arrête avec les dessous, Franck, rends-moi les miens déjà.
Merci Stéphanie Verne, mais venons-en quand même au fait, vous êtes ici parce que vous vouliez réagir au livre de Franck Tétard, c'est
oui,
bien ça?
Son livre sur les capitales qui se déplacent. Rire. Quand on a vu ça avec les camarades de mon forum, les historiens de la vraie vérité, on a ri. Les capitales ne se déplacent pas. Non, Franck, on les déplace. Dans le secret pour manipuler les pauvres gens. Mais ça, Franck, il a trop peur de le dire parce qu'il pense qu'il est sur écoute. Alors que Franck, tu es chercheur. Les chercheurs en France, personne ne vous écoute. J'ai vu ton livre, je l'ai lu. Il a des images, il est joli, mais on s'ennuie. Le style est plat, plat, plat comme la terre. Rejoignez les historiens de la vraie vérité vraie. Vous le savez, tout le monde le sait que Paris, la capitale de la France qui avant se situait vers Carcassonne, a été déplacée au nord en 1274 par les reptiliens. Pour éviter quoi? Que les paysans et les sans-dents puissent rejoindre la capitale facilement. Et regardez, ça marche vu le temps qu'ils mettent en tracteur pour venir jusqu'ici. Mais bon, je me tais, sinon on va encore me traiter de folle. Vous savez, Mathieu de Noailles, Mathieu de Noailles, qui est votre vrai nom, je vous le rappelle.
Oui.
L'histoire a toujours été écrite par les hommes et racontée par les hommes. Et bien moi, aujourd'hui, je viens rétablir la vraie vérité vraie. Comme vous le savez tous, je suis mondialement connue pour mon best-seller du New York Times sur les pyramides d'Égypte, où j'explique comment les Arabes ont reçu l'aide des extraterrestres pour les construire. Sinon, évidemment, ils n'y seraient pas arrivés tout seuls.
Oui, enfin, Stéphanie Verne, vous êtes très décriée quand même par vos confrères historiens. Mais comment vous l'expliquez, ça?
Vous ne voyez donc pas qu'on nous ment, Mathieu de Noailles? Pourquoi je suis décriée? Je vais vous dire, moi, pourquoi je suis décriée. Parce qu'ils sont nuls, 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 tous nuls, où est la caméra? Nul, zéro, comme le nombre de personnes qui ont marché sur la Lune. Rejoignez le forum de la vraie vérité vraie. Je suis décriée, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'ils n'aiment pas quand une femme dit la vérité, alors que sans les femmes, ils ne sont rien. Regardez mon frère Stéphane, qui s'appelle Berne. Comme moi, qui suis une femme obligée de faire des livres sur la reine d'Angleterre, qui est une femme, la reine d'Angleterre, qui, tiens, 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 comme c'est étonnant, avait un pénis. Comme celui de l'amant secret de François Mitterrand, qui n'était autre que l'acteur Jean Marais, qui donnera plus tard son nom au quartier du Marais. Qui est le quartier? Le quartier du Marais, c'est la capitale des homosexuels. Voilà, Franck Tétard, c'est comme ça qu'on déplace une capitale. Mais bon, je me tais, sinon on va encore me traiter de folle.
C'est possible. Merci Stéphanie Berne. Et surtout, merci Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et sur la scène, à la nouvelle scène à Paris, les mercredis, et en tournée, alors que Cyril est en train de décéder. C'est quelqu'un qui ne peut plus rire. Il a passé un âge où rire est un danger permanent pour sa santé. Il risque de nous claquer entre les doigts. Donc n'allez pas voir, surtout Cyril, Lisa Perriot en spectacle, partout en France. J'y suis pas encore allé, mais c'est formidable. Franck Tétard, merci d'être venu nous expliquer ce phénomène des capitales déplacées. Je rappelle le titre de votre livre, Atlas historique des capitales déplacées, 70 capitales qui ont déménagé au fil des siècles, c'est aux éditions Autrement. Et je signale également l'apparition du Grand Atlas 2026 que vous avez dirigé en partenariat avec France Info, avec un dossier passionnant, Le Monde selon Trump, c'est aussi aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Zoom, zoom, zen.